Un journal présenté ce soir par Sophie Delpont. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Les hommages continuent de parvenir du monde entier après la mort de Jacques Chirac hier matin à l'âge de 86 ans. À l'Élysée, depuis hier, la foule se presse. Parmi elles, de nombreux jeunes, nous dira Rosalie Lafarge. Clap de fin pour Aigle Azur. La justice n'a retenu aucune offre de reprise. Les salariés seront licenciés. Analyse de ce fiasco avec Anne-Laure Jumet. Trois ministres envoyés à Rouen au lendemain de l'incendie de l'usine Lubrizol, site classé Seveso. Et on entendra l'inquiétude des habitants. L'Afghanistan vote demain pour l'élection présidentielle dans un climat de tension extrême. Reportage sur place signé Valérie Crova. Et puis, comme tous les vendredis, l'enquête de la cellule investigation de Radio France sera consacrée à la disparition très alarmante des oiseaux en Europe. Une enquête signée Philippe Reltien à la fin de ce journal. C'est terminé pour Aigle Azur. Le tribunal de commerce d'Evry n'a retenu aucune offre de reprise. La compagnie aérienne, placée en liquidation judiciaire le 2 septembre dernier, cessera ses activités ce soir à minuit. Le sort est donc scellé pour les 1150 salariés de la compagnie. Anne-Laure Jumet, bonsoir.
Bonsoir.
Cette fermeture entraîne donc de lourdes conséquences sociales.
Oui, puisqu'Aigle Azur embauche 800 salariés en France, 350 en Algérie, des salariés qui vont donc être licenciés. Un immense gâchis pour le président du syndicat des pilotes SNPL de la compagnie, Martin Surzur.
Ça s'arrête. 20 ans de carrière pour moi, pour beaucoup de mes collègues. Une entreprise vieille de plus de 70 ans qui est mise par terre en 2 ans par des actionnaires et un PDG pas performant, pour rester politiquement correct.
Alors, il y avait encore 2 offres sur la table, celle de l'actionnaire majoritaire Gérard Roy et celle des anciens dirigeants de la compagnie Hop. Mais pour le tribunal, donc, aucune solution pérenne n'a été proposée par ces candidats. Les pouvoirs publics ont aussi leur part de responsabilité, estime pour sa part Jean Edoux, secrétaire général d'OFO Transport.
Dans un moment où le transport aérien est en difficulté globalement au niveau mondial, eh bien, le gouvernement français ne fait rien. Je suis outré par cette absence de réaction. J'ai encore mémoire. Un ministre des Transports nous dire qu'il était confiant dans la situation et qu'il y aurait des offres de reprise à haut niveau. Eh bien, si le haut niveau, pour lui, c'est zéro, nous n'avons pas la même notion de ce que peut être le haut niveau.
Alors, du côté du ministère des Transports, on dit regretter cette issue, mais il faut désormais se tourner vers l'avenir. Nous expliquons dans l'entourage de Jean-Baptiste Djebari. Le secteur embauche, ajoutons, et il y aura un accompagnement des salariés afin de favoriser leur reclassement dans d'autres compagnies européennes.
Merci Anne-Laure Jumet. Dans ce secteur de l'aérien en crise, décidément, XL Airways sera fixé demain, mais un mauvais signal a été donné ce matin. Le PDG d'Air France, Benjamin Smith, a déclaré ne pas être intéressé par la compagnie. Anne Rigaille, directrice générale d'Air France, au micro d'Akim Kasmi.
Aujourd'hui, nous ne sommes pas indifférents, évidemment, à ce qui se passe pour ces compagnies françaises, pour les salariés. Pour autant, dans les conditions économiques actuelles, ça ne fait pas partie de nos priorités. Si nous souhaitons préserver le lien à nos employés, le respect des contrats sociaux, il est difficile, compte tenu des lois françaises, d'intégrer des personnels dans notre compagnie. Aujourd'hui, nous constatons que le transport aérien français et européen est encore très fragmenté. Entre Paris et New York, il y a 10 compagnies aériennes qui se battent. C'est beaucoup plus qu'au départ de n'importe quelle grande ville dans le monde. Et nous pensons qu'une consolidation du secteur est inévitable.
À la une encore à 7h, les nombreux hommages rendus à l'ancien président Jacques Chirac. Une minute de silence aura lieu lundi à 15h dans les écoles et les administrations publiques. Une journée de deuil national. C'est ce qu'a annoncé à la mi-journée la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, à la sortie du Conseil des ministres. Depuis hier soir, les portes de l'Élysée sont ouvertes jusqu'à dimanche pour permettre aux anonymes de signer les livres d'or. Rosalie Lafarge, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, beaucoup de jeunes ont fait longuement la queue pour rendre hommage à l'ancien président.
Oui, ils sont venus seuls ou entre amis fouler les graviers de la cour de l'Élysée pour aller écrire quelques lignes.
J'ai mis que c'était le plus célèbre des franchouillards dans mon message.
Du haut de ses 19 ans, Hugo a tenu à faire le déplacement.
Parce que je pense que ça fait partie d'un effort, non pas de célébration, mais d'hommage aux hommes qui ont fait la France. Après, il y a l'homme politique qu'on peut aimer ou ne pas aimer, mais il y a la figure. Je pense que d'autres présidents, à leur mort, il n'y aura peut-être pas la même symbolique.
Un avis partagé par Angel et Anastasia. À 18 et 20 ans, les deux amies sont nées sous Jacques Chirac et depuis, elles ont pu comparer.
Quand on s'intéresse un peu à l'histoire de la 5e, on se rend compte qu'il n'y en avait pas beaucoup qui attiraient la sympathie comme lui. Il était toujours le premier à alerter, le premier à reconnaître les erreurs. Et rien que ça, c'est quelque chose qui manque énormément aujourd'hui pour un président.
Se rappeler,
honorer, à ne pas oublier. C'est ça qui est important, je pense, surtout quand on est jeune et qu'on ne l'a pas connu de plus, voir quelle émotion ça suscite, qu'est-ce qu'il nous a apporté, comment les gens le voient et qu'est-ce qu'il nous laisse finalement.
Ce qu'il laisse dans le cœur des jeunes, comme Prisca et Jérémy, deux Lorrains de passage à Paris, c'est avant tout l'image d'un homme foncièrement attaché aux Français.
À l'époque, on n'avait pas les réseaux sociaux et du coup, c'est vrai qu'il était un peu plus proche de la France profonde. C'est ce qui plaisait à tout le monde.
Notamment M. Chirac, il était connu pour ses gaffes, ses choses comme ça. Et c'est ça qui plaisait aussi et qui nous rapprochait.
Ses gaffes, son humour, sa proximité, son cri d'alarme pour la planète, notre maison brûle, lancée en 2002. Autant de raisons pour la jeune génération de rendre hommage à un président qu'elle a peu connu, mais qui incontestablement l'a marqué.
Merci Rosalie Lafarge. Une cérémonie populaire en présence de la famille de Jacques Chirac aura lieu dimanche à partir de 14h aux Invalides. L'ancien président devrait être inhumé le lendemain dans un cadre strictement privé au cimetière du Montparnasse. Emmanuel Macron ne se déplacera pas aux Invalides ce dimanche en hommage à Jacques Chirac. Il sera en revanche présent à l'église Saint-Sulpice à midi lundi pour l'hommage solennel rendu à Jacques Chirac. Un hommage particulier lui sera également rendu le week-end des 5 et 6 octobre prochain en Corrèze, la terre d'élection de Jacques Chirac. Alors qu'un autre hommage lui sera rendu ce week-end en mémoire donc de Jacques Chirac, une minute de silence sera observée avant tous les matchs de football amateur et professionnel disputés ce week-end, selon un communiqué de la Fédération française de football. Trois ministres envoyés à Rouen au lendemain de l'incendie de l'usine Lubrizol, site classé Céveso. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, a promis ce matin que les écoles seraient nettoyées et prêtes à accueillir les élèves lundi. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, et la ministre de la Transition écologique sont sur place. Europe Écologie Les Verts, la France Insoumise et le PCF réclament la transparence sur les conséquences sanitaires de l'incendie, critiquant le manque d'information de la population. Car dans les rues, depuis la fumée a laissé la place à une forte odeur âcre, nauséabonde, et beaucoup de Rouennais portent des masques aujourd'hui. Ils s'inquiètent. La préfecture déclare que les dernières analyses montrent que cette odeur n'est pas dangereuse, mais l'inquiétude reste forte dans les rues, comme l'a constaté Noé Miller.
Impossible de circuler dans Rouen sans croiser un masque blanc posé sur le nez et la bouche des passants aujourd'hui.
Je pense que l'air est très très pollué.
Thierry est venu à Rouen pour le travail.
On voit sur les camions des traînées de suie. Donc si ça se dépose sur les camions, forcément on en respire. Donc je mets un masque. La preuve que mon masque est bien atteint. Donc je suis assez content de l'avoir mis. Je vous fais voir. Je l'ai mis depuis ce matin 7h. C'est un peu noir. C'est pas incroyable, mais on voit bien quand même des petites traînées noires.
Alors il a hâte de retourner dans sa campagne à l'ouest de Rouen. Un peu plus loin, ses étudiants, eux, sont obligés de rester dans le centre-ville. Alors dès ce matin, en sentant la forte odeur, ils se sont rués dans une pharmacie.
Il y a vraiment une odeur qui n'est pas agréable et même on se dit que c'est pas forcément la meilleure chose à respirer du coup.
Avant d'avoir un masque, ils mettaient une écharpe sur leur nez pour tenter de se protéger.
Pour l'odeur déjà et puis même pour la pollution, on ne sait jamais, malgré des choses qui ont été dites comme quoi l'air n'était pas toxique ou non, on pense que si l'usine était classée Céveso, c'était pas pour rien.
Ils ont décidé de garder leur masque au moins jusqu'à demain matin.
La PMA pour toutes les femmes, quelle que soit leur situation, a été votée à la mi-journée à l'Assemblée nationale et sous les applaudissements. Âprement débattu depuis mercredi, cet article premier du vaste projet de loi bioéthique a été adopté dans l'hémicycle, très clairsemé, par 55 voix pour, contre 17 et 3 abstentions malgré la vive opposition de la droite. Cette PMA élargie aux couples de lesbiennes et aux femmes célibataires, soutenue par la majorité et la gauche, sera remboursée par la Sécurité sociale. À l'Assemblée nationale, toujours, le projet de loi budgétaire est examiné en ce moment. Un budget post-crise des Gilets jaunes qui doit entériner notamment la baisse de 5 milliards d'euros de l'impôt sur le revenu. Selon le président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, Éric Woerth, c'est un jeu de dupes car la moitié de cette baisse est une conséquence mécanique du prélèvement à la source. Un budget pour lequel la France émettra 205 milliards d'euros de dettes à moyen et long terme en 2020, soit 5 milliards de plus que cette année, selon l'agence France Trésor. Alors ce budget est-il conforme aux exigences européennes, Marie Viennot ?
Les exigences européennes sont triples. Il y a d'abord le déficit public qui ne doit pas dépasser les 3% du PIB. Et pour la première fois, depuis 2001, le budget prévu pour 2020 satisfait à cette exigence. On est à 2,2% du PIB. très bien, me direz-vous, sauf que non, car 2,2% de déficit, cela fait quand même 93 milliards d'euros à emprunter pour boucler les comptes. Ces 93 milliards vont donc augmenter la dette. Or, la France est déjà l'un des pays les plus endettés de la zone euro. Quand on rapporte sa dette sur son PIB, on trouve quasiment 99%, bien au-delà de la limite de 60% fixée par Bruxelles. Or, c'est la deuxième exigence. La troisième, c'est la trajectoire. Le pays fait-il des efforts ou pas? C'est ce qu'observe aussi Bruxelles. Or, le budget de l'an prochain entérine au contraire une dérive. Quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, le déficit de l'État était de 67 milliards, on sera donc un peu au-dessus de 93 milliards l'an prochain. Bruxelles ne verra pas cela d'un bon œil et la Commission pourrait donc lancer une procédure contre la France pour déviation significative des objectifs de désendettement déjà fixés. Mais pour le moment, elle n'a jamais utilisé cette procédure. Le Portugal vient d'ailleurs d'y échapper alors qu'il était un peu dans le même cas que la France. Politiquement, il serait également malvenu pour la toute nouvelle Commission d'entamer son mandat par un camouflet à la France.
Marie Viennot. Direction maintenant l'Afghanistan. Les Afghans qui éliront demain leur prochain président dans un climat d'extrême tension. Jamais le pays n'a connu autant de victimes depuis le début de l'année. Près de 4000 civils ont été tués ou blessés dans des attentats suicides revendiqués par les talibans ou par l'État islamique. Les habitants de Kaboul, la capitale afghane, font preuve de résilience face à cette violence, comme l'a constaté notre envoyé spécial Valérie Crova.
Ce ne sont pas des cerfs-volants que l'on voit le plus souvent dans le ciel de Kaboul, mais des hélicoptères de l'OTAN. Les nombreux barrages policiers qui se sont renforcés dans la capitale afghane à l'approche de l'élection provoquent des embouteillages monstres. Comme tous les Kaboulis, Mustapha vit au rythme des attentats qui endeuillent chaque semaine ou presque sa ville.
Dès qu'on sort, on a peur que est-ce qu'on pourra rentrer. Ici à Kaboul, il n'y a pas de garantie sur la vie. Moi j'ai 36 ans, je suis venu dans la guerre, je suis grandir dans la guerre et peut-être que je vais mourir dans la guerre.
Avec les attaques répétées des talibans, les épais murs de béton censés protéger les institutions afghanes et étrangères ont fait de Kaboul une ville bunkerisée. À la tête d'un collectif d'artistes, Omed Sharifi a eu l'idée de se servir de ces murs comme support pour des fresques.
Quand ils ont installé ces murs anti-explosion, ces horribles murs en béton, Kaboul avait l'air d'une prison. C'est étouffant, c'est vraiment moche. La plupart des murs de sécurité qui se trouvent à Kaboul sont maintenant recouverts par ces peintures murales.
Art Lords, autrement dit les seigneurs de l'art, non choisis en contraste avec les seigneurs de guerre, ont réalisé à ce jour plus de 500 œuvres à travers tout le pays, y compris dans les provinces contrôlées par les talibans.
Valérie Crova en Afghanistan pour France Culture. En Égypte, quelques manifestations d'opposants au président Abdel Fattah al-Sissi ont eu lieu cet après-midi. Des rassemblements sporadiques rapidement dispersés car depuis les premières protestations la semaine dernière, les autorités ont resserré l'étau et beaucoup de sécurité, beaucoup de peur aussi dans les rues, comme a pu le constater notre envoyé spécial Frédéric Mettezo.
Pas question de revivre des manifestations, même balbutiantes comme la semaine dernière, et plus encore une révolution comme en 2011. La place Tahrir et ses environs sont cernés, accès interdit aux personnes et aux véhicules, des barrières, des jeeps, des camions avec mitrailleuses, et bien sûr des hommes quadrillent les rues du centre du Caire. Des policiers en uniforme blanc et béret, des soldats en treillis noir avec cagoules et mitraillettes en bandoulière, façon ninja. Le but des autorités est de dissuader les manifestants de descendre après la grande prière du vendredi. Pression maximale sur la population depuis dimanche. Au moins un millier de personnes ont été arrêtées, parfois pour un simple slogan ou un tweet. Depuis ce matin d'ailleurs, Internet tourne au ralenti. Certains sites ou applications sont inaccessibles. La Fédération de football égyptienne annule les matchs du week-end par peur que tout événement public tourne à la manifestation anti-Sissi.
Frédéric Mettezo, au Caire pour France Culture. L'Arabie Saoudite a accepté de mettre en œuvre un cessez-le-feu partiel au Yémen, selon le Wall Street Journal. Cette décision de Riyad intervient une semaine après la proclamation par leurs adversaires houthis d'une trêve unilatérale. L'Arabie Saoudite qui vient par ailleurs d'annoncer qu'elle va délivrer pour la première fois des visas de tourisme, ouvrant ainsi ses portes aux vacanciers dans le but de diversifier ses ressources. Moscou redoute que les États-Unis dévoilent des extraits confidentiels des conversations téléphoniques entre Vladimir Poutine et Donald Trump après la divulgation par Washington d'un entretien entre le président américain et son homologue ukrainien, a déclaré aujourd'hui le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Fin juillet, Donald Trump et son homologue ukrainien avaient discuté notamment de modalités pour barrer la route au rival politique de Joe Biden. C'est un employé du renseignement qui avait révélé le contenu de cette conversation téléphonique. Alors comment les appels téléphoniques du président américain sont-ils gérés? Élément de réponse à Washington avec Grégory Phillips.
Le 25 juillet au matin, quand Donald Trump appelle le président ukrainien, nouvellement élu Zelensky, la conversation n'est pas enregistrée, mais elle est écoutée en direct depuis la Situation Room par quelques conseillers. C'est ce qui se passe généralement pour garder une trace des échanges. Ensuite, les conversations présidentielles sont archivées dans un serveur informatique et classifiées. D'ailleurs, la Maison-Blanche ne publie plus systématiquement la liste des appels téléphoniques du chef de l'exécutif. C'est souvent des années plus tard pour les livres d'histoire que le contenu de ces échanges est rendu public. Dans le cas qui nous intéresse, le lanceur d'alerte affirme que très vite, ces notes ont été extraites de ce serveur informatique pour être placées dans un autre serveur destiné aux informations top secrètes, ultra sensibles. À la Maison-Blanche, seules 4 à 6 personnes ont accès à cette base de données, même pas le conseiller à la sécurité nationale. Le transfert de ces informations est le signe sans doute que l'entourage du président a très vite compris que cette conversation, au départ anodine avec le dirigeant ukrainien, posait un problème.
Les précisions signées Grégory Phillips à Washington pour France Culture. Et 18h16 sur France Culture, l'heure de l'enquête de la cellule investigation de Radio France. Aujourd'hui consacrée à un phénomène alarmant, 3 milliards d'oiseaux ont disparu aux États-Unis en 50 ans seulement, selon la revue Science. Bonsoir Philippe Reltien.
Bonsoir.
Quelle est la situation en Europe? Vous avez mené l'enquête.
En effet, je me suis intéressé aux oiseaux des champs et des plaines agricoles parce que le constat est alarmant. En 30 ans, l'Union européenne a perdu 421 millions d'oiseaux et l'hécatombe se poursuit, explique l'ornithologue Frédéric Giguet.
Depuis 1989, on a perdu en France à peu près un tiers des oiseaux des milieux agricoles. Les alouettes, les tourterelles des bois, les perdrix sont des espèces qui sont en déclin et dont on perd chaque année 1 ou 2% des effectifs.
Vous voyez, quand je vous disais hécatombe, le mot n'est pas trop fort. Alors, il y a de multiples raisons à cela, notamment le dérèglement climatique qui désoriente les oiseaux migrateurs. Mais si on y regarde de plus près, il y a un coupable numéro 1. Et ce coupable, ce sont les pesticides qui sont un poison pour les oiseaux. Un poison à mort lente, comme l'explique Olivier Cardoso, éco-toxicologue à l'Office de la chasse et de la faune sauvage, qui vient de publier une étude sur 20 ans d'observation d'oiseaux morts.
En grande majorité à l'heure actuelle, on va avoir affaire à des pesticides qui vont avoir des effets sublétaux. Ce sont des effets qui vont porter sur des troubles neurologiques, sur des troubles de l'immunité, sur de la perturbation endocrinienne, sur plein d'autres choses et qui vont mettre en jeu la santé de l'animal, mais pas forcément de manière foudroyante, violente, et qui vont même avoir parfois des effets transgénérationnels.
Comment les oiseaux sont-ils contaminés par ces pesticides, Philippe?
Eh bien, c'est très simple. Beaucoup ne sont plus répandus par pulvérisation, comme autrefois, mais ils enrobent les graines qu'on va enfouir, semer dans les champs. Alors, on pourrait se dire que ça évite la contamination, mais c'est le contraire qui se produit. Et Stéphane Foucard, spécialiste scientifique au journal Le Monde, nous explique comment.
La semence qu'on met en terre, ce n'est plus une semence, c'est plus une graine comme nous autres urbains nous l'imaginons. C'est quelque chose qui ressemble un peu à un Smarties, un petit bonbon coloré. La semence est enrobée du toxique, c'est-à-dire qu'on transforme en champs insecticides des millions d'hectares de grandes cultures.
Et ces millions d'hectares deviennent donc un terrain de jeu pour les oiseaux qui picorent les graines qui n'ont pas été totalement enfouies.
Les choses avancent doucement quand même. Certaines de ces molécules ont été interdites récemment.
Oui, on commence à les interdire. C'est le cas de l'imidacloprid dont on vient de parler, interdit en septembre 2018. Mais le problème est que ces substances ont la vie longue, dure. C'est ce que relève Barbara Domenex, qui dirige une unité de recherche sur les toxiques à Jussieu.
50 ans après l'interdiction, le DDT est présent dans le liquide amniotique de toute femme enceinte en France. Et bien plus que le DDT, d'autres pesticides sont aussi présents.
Et la question qui se pose au final, Philippe, c'est aussi le sort de l'homme.
Évidemment, l'oiseau n'est-il pas le dernier rempart avant l'espèce humaine, notre sentinelle? C'est ce que pense Fabrice Nicolino, qui vient de publier un livre sur les pesticides intitulé « Le crime est presque parfait » et qui tire la sonnette d'alarme.
Vous vous souvenez comme moi, j'imagine, des canaris qu'on utilisait dans les mines de jadis et qui alertaient sur l'imminence de coups de grisou. Quand l'oiseau, hélas, le canari mourait, et ben, on avait compris que le gaz arrivait. Et là, je pense que c'est le même message que nous adressent les oiseaux. Quand ils disparaissent à la vitesse qu'on voit par centaines de milliers et même millions dans un pays comme la France, ben, il faut sonner le tocsin, c'est évident.
Alors, je précise que j'ai contacté Bayer, un des principaux producteurs de pesticides au monde, mais il n'a pas donné suite à ma demande d'interview.
Merci Philippe Reltien. Votre enquête sur la disparition des oiseaux est à retrouver en ligne sur franceculture.fr. Et puis, comment enseigner le climat? Ce sera l'objet du temps du débat juste après ce journal avec Emmanuel Laurentin. Juste le temps de faire un point sur la météo. Des nuages avec quelques averses signalées ce soir et demain matin sur la majorité du pays. Un temps dégagé en revanche au bord de la Méditerranée. Les températures seront comprises demain en moyenne entre 10 et 16 degrés en général. 17 à 21 degrés au bord de la Méditerranée. C'est la fin de cette édition préparée avec Jean-François Braun et avec Jacques Zuber à la technique. Prochain rendez-vous d'actualité pour la rédaction, ce sera le journal de 22h avec Clarence Rodriguez.